Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bah dis donc, vous avez vu ces ordures de Mayday. Ils nous ont pris 8 minutes, incroyable. Incroyable.
Pas sûr non plus.
C'est la guerre ici.
On finit 8 minutes en retard. Si ? Non, allez.
Non, pas sûr.
Hop.
Alors ce soir, écoutez, sans grande originalité, on va commencer par parler de cette usine qui a cramé à Rouen, qui s'appelait Lubrizol. Et, ma foi, on va faire comme tout le monde là-dessus.
Il n'y a pas de raison. Ah,
mais attends, peut-être pas exactement comme tout le monde, mais la même chose que tout le monde, peut-être légèrement différemment.
Ensuite, on va parler de...
De la mise en examen de Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré.
Ah, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le vice du côté des flics n'a pas de limite, quoi.
Ça, aucune limite, ça, sûr, c'est... Ouais,
ensuite, on va parler tendance et on va parler de manif pour tous en éternel loser.
Air France, la grosse blague. Vous verrez bien.
Ensuite, on va parler de la possibilité de niquer sans faire de bébé, bientôt étendue aux jeunes filles de moins de 15 ans.
Ah, c'est pas moi qui ai préparé l'info. Tu découvres le titre en même temps que tu le lis. Et puis on terminera par un petit conseil de lecture. Mais avant tout ça, on va aussi commencer par une petite brève. Sur les décorations de... En fait, je me suis rendu compte à quel point les décorations de flics voulaient dire quelque chose, en disaient même long sur ce qu'on appelle la doctrine du maintien de l'ordre. Et alors, tout ça, c'est parce qu'il y avait un article sur le site Désarmons-les, un article sur Dominique Caffin, qui est un flic... semble-t-il un CRS particulièrement actif dans les moments de maintien de l'ordre et particulièrement actif de la matraque, qui a déjà été repéré, re-repéré de plein de manières différentes. Enfin bon, il y a tout un article sur lui, sur le fait qu'il, ouais c'est ça, il tape fort, beaucoup, et qu'il aime bien le faire, et qu'il aime bien s'exposer en train de le faire. C'est-à-dire qu'il est aussi, il apparaît ici dans une petite émission, là dans une petite interview... Voilà, mais après avoir fait une sorte de petite liste de ses hauts faits, l'article nous explique qu'il a été décoré plusieurs fois la Légion d'honneur et la médaille de la sécurité intérieure. Et donc, ce même article nous explique que d'autres flics ont eu cette médaille de la sécurité intérieure. Et là, je les ai vérifiés un par un sur des sites qui ne sont pas des sites militants pour le coup. Et c'est réellement vrai. C'est-à-dire que tous les flics qui ont fait des trucs vraiment trash ces derniers mois, cette dernière année, ont tous été décorés. C'est pas contrairement à ce qu'on avait entendu un petit peu à un moment, qu'après la crise des Gilets jaunes, il y avait des flics qui avaient été décorés, dont certains peut-être étaient par ailleurs accusés, mais en tout cas l'accusation n'était pas encore faite, alors on était sûr de rien ou quoi. Mais là, écoutez... le flic qui commandait les CRS, auteur des tirs qui ont tué Zineb Redouane. Vous savez, cette vieille dame qui essayait de fermer sa fenêtre et qui en est morte.
Oui.
Parce qu'elle a pris une grenade lacrymo dans la gueule. Le flic qui commandait ces 5 CRS décorés. Alors attendez que je trouve les autres. Le flic qui dirigeait la charge de police qui a blessé Geneviève Leguet à Nice. Vous voyez cette dame, cette vieille dame de l'attaque qui a été blessé, qui s'est retrouvé à l'hôpital et où Macron s'était permis une sorte de petit machin paternaliste vraiment dégueulasse pendant une manif de gilets jaunes aussi, décoré. Et le flic qui commandait l'attaque de police qui a provoqué la noyade de Steve Maya Caniso, décoré. C'est-à-dire que c'est pas un hasard en réalité, c'est juste systématique. Un flic qui se retrouve mouillé dans une saloperie de la police qui fait un peu les titres, est systématiquement décoré.
Voilà, mais tu veux dire qu'ils sont décorés après ?
Oui, oui, bien sûr.
Bien sûr. Moi, j'avais pas compris.
C'est qu'après la médiatisation de leur machin, hop, ils se retrouvent décorés.
Ah, c'est ce qu'on appelle une sanction, quoi. C'est un peu le.
C'est ça.
Est-ce que du coup, par exemple, quand les flics sont décorés de ça, du coup, est-ce que dans les bureaux, par exemple, ils disent, alors lui, il a été décoré de ça. Ouh là là, bon, c'est bon, ça va être un bon individu. On va le prendre pour le maintien de l'ordre.
Bah, vraisemblablement oui. Mais en fait, c'est même sans doute pire que ça. C'est que au moment où potentiellement il pourrait finir. Bon, alors potentiellement, attention, c'est une petite potentialité, mais il pourrait finir devant la justice. À ce moment-là, ils peuvent toujours montrer leurs états de service et dire que c'est des bons agents. La preuve, c'est qu'ils ont cette médaille du maintien de l'ordre. Ça marche aussi. Je veux dire, c'est aussi une manière de les couvrir a posteriori, mais avant le moment où ils passeraient devant un juge.
Ouais, mal. Sympa, la hiérarchie.
Canu Info. Du mercredi.
Ah, donc on va parler de Lubrizol, et c'est à toi qui commence.
Et tous les produits ne sont pas dangereux, a tenu à rassurer une nouvelle fois le préfet Pierre-Yves Durand, mais comme la liste qu'il a publiée hier soir contient 479 produits, on peut se dire qu'effectivement il y a des chances qu'ils ne sont pas tous dangereux.
Il y en a 20 sur un produit de consommation qu'on bouffe, il y en a déjà la moitié qui sont dangereux, alors là...
Mais là on pourrait se dire que quand bien même il n'y en aurait qu'un, ça serait déjà un grave problème, et en réalité vous allez même voir que ça serait même possible qu'il y en des zéros qui soient dangereux et qu'à la fin l'incendie soit méga dangereux quand même. Mais bon, alors la préfecture communique d'abord et avant tout sur l'amiante, et pour cause, c'est que alors il existe bel et bien il existe un truc lié à l'amiante dans cette histoire. C'est tout simplement que le toit de l'usine était en fibrociment, donc le fibrociment, vous voyez, c'est des sortes de tôles ondulées qui contiennent de l'amiante. Le toit a explosé, l'explosion a envoyé des bouts d'amiante dans l'air. Ça a été possiblement dangereux pour les personnes qui se seraient trouvées au-dessus du toit à prendre une grande inhalation à ce moment-là. Les morceaux d'amiante retombent en réalité. Et du coup, ce truc-là, effectivement, ça n'a pas l'air d'être méga dangereux, cette histoire de toit en amiante. Alors ça, la préfecture adore et elle en fait des tonnes sur le fait qu'il n'y a pas d'amiante dans l'air.
Bah, surtout que l'amiante, tout le monde sait ce que c'est. Enfin, en gros, en tout cas, tout le monde en a entendu parler, tout le monde s'imagine les dangers. Alors j'imagine que rassurer là-dedans... Là-dessus, pour la préfecture, c'est un gros enjeu de rassurer sur l'ensemble.
C'est ça, ça permet de rassurer, alors que par contre, si on s'attarde un peu sur les autres choses, ça permet vachement moins facilement de rassurer.
J'en suis sûr que tu vas galérer à lire de tous les noms des trucs qui doivent avoir des noms un peu bizarres.
T'en fais pas, j'ai un peu synthétisé pour pas en avoir trop à lire. Mais du coup, alors le préfet qui affirmait immédiatement qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë, bah, en réalité, c'était un peu chaud, et franchement, on dirait que c'est déjà un coup de bol qu'il n'y ait pas des gens qui soient morts dans les premières heures juste d'avoir respiré, quoi. Alors bon, bien sûr, moi, il faut bien dire que j'y connais pas grand chose, mais figurez-vous qu'il y a des gens qui connaissent plus que moi et qui ont un peu regardé ça de près. Et par exemple, j'ai trouvé un article sur le site de Science et Avenir où la rédaction de Science et Avenir s'est penchée sur cette liste et a dit oulalalala en résumé. Alors par exemple, il y a tout un petit paquet de produits qui sont classés H304. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que la présence de ces types de liquides dans les voies respiratoires peut avoir des conséquences catastrophiques. L'effet toxique est en effet aigu, car il résulte d'une exposition unique et peut provoquer, outre l'obstruction mécanique des voies respiratoires, une pneumonie chimique ou des lésions pulmonaires. Et que, en gros, les H304, si ça rentre dans les voies respiratoires, on peut en clamser. Bon, coup de bol, personne n'est mort pour l'instant. Et donc ça, il semble que effectivement, je peux quand même pas sûr d'avoir entièrement compris tous les enjeux. On dirait plutôt que si les gens n'en sont pas morts tout de suite, ceux-là, c'est bon, ça va pas être les plus graves. Après, on en a encore d'autres. On a les H360F et les H361FD qui peuvent nuire à la fertilité ou qui sont susceptibles de nuire au fœtus. Bon, ça c'est la petite liste de Science et Avenir. Ajoutez à cela toute une classe de produits qui s'avèrent corrosifs pour la peau, qui peuvent provoquer des allergies ou de sévères irritations aux yeux, voire des lésions oculaires graves. Alors ça, c'est tous les produits. Donc pareil, hein, sur les 479, il y en a un certain nombre pour chaque catégorie. Les H341, H315, H317, H318 et H319. Ceux qui sont classés H372 et H373 entraînent ou peuvent entraîner des effets graves sur certains organes en cas de répétition sur le long terme. Alors après, qu'est-ce que c'est que long terme? Comment est-ce que les produits sont effectivement enlevés ou pas? Bon, aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de collèges où les enfants devaient retourner au bahut. Et alors, pardon, c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Et là, des profs arrivés au collège ont dit, bah, on nous avait dit que le collège serait nettoyé. En fait, il l'est pas. En fait, l'aération est pas nettoyée. En fait, les saloperies sont toujours dans les conduits d'aération. Et là, il y a des profs qui ont exercé leur droit de retrait. Il y a un collège qui est resté fermé. Les autres, les profs ont râlé. Mais finalement sont allés en cours. Ma foi, pour leur santé à eux, c'est une chose, pour celle des élèves, ça me semble nettement plus grave. On peut dire que ces profs-là sont pas exactement sérieux. Mais alors surtout, d'après les quelques experts qui ont été trouvés ici et là par les rédactions des différents journaux, comme par exemple la chercheuse Aline Serme qui est interviewée dans Le Monde, chaque produit mis à part, c'est une chose, c'est ce qu'on vient de voir. Mais l'effet cocktail, c'est encore une autre chose, c'est que tous ces produits qui brûlent ensemble font une sorte de mayonnaise, c'est-à-dire que les molécules se mélangent, et cette mayonnaise donne un machin dont le nom précis est en réalité dioxine, c'est-à-dire que c'est ces mélanges, c'est exactement ça qu'on appelle dioxine. Alors vous voyez, dioxine, je ne sais pas à qui ça dit quelque chose ou pas, mais c'est exactement le nom de ce truc qui a rendu célèbre le petit bled italien de Seveso, ou à l'époque un nuage d'herbicide, d'une usine d'herbicide qui avait aussi perdu plusieurs produits chimiques qui sont mélangés dans l'air. Et ben, ce nuage a tué des dizaines de milliers d'animaux d'élevage, et puis envoyé un tas d'humains à l'hôpital, mais les humains étaient un peu plus loin sur le coup, alors c'est pas eux qui ont pris en premier. Bon bah voilà, c'est ça qui est sorti. Alors encore une fois, le nuage de Tchernobyl a contourné la frontière, c'est bien connu, et plus de 30 ans plus tard, les autorités ne craignent pas de nous refaire le coup. Et ceci au mépris des gens qui sont sur place. Et on va le voir, entre les gens qui sont sur place, les habitants, les habitantes, il y a encore une sorte de hiérarchie dans le mépris.
Et c'est ça, et en fait il y a ce qu'on pourrait appeler les oubliés de Lubrizol. Et alors quand on parle d'oubli, on pourrait croire, on pourrait s'attendre à ce que ce soit des personnes qui habitent loin et où le nuage, oh, par des conditions météorologiques un peu étranges, soit retombé sur un endroit un peu isolé, où ce serait un peu atypique que des gens soient concernés à cet endroit là et ben non, pourtant pas du tout, hein. Il et elle habitent à 500 mètres de l'incendie. 500 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. À 500 mètres, on doit certainement ressentir la chaleur de la fournaise, le vibrement des explosions et respirer en direct les fumées. Alors, à cette distance-là, on aurait pu imaginer qu'une armada de pompiers, flics, employés divers viennent toquer directement aux portes pour mettre en place un plan d'action au cas où, même si on savait pas trop bien ce qui cramait à ce moment-là, on aurait pu s'imaginer que une mesure de précaution à minima était, je sais pas, un confinement sévère des personnes qui étaient dans un périmètre de moins d'un kilomètre, par exemple. Eh bien non, parce que pour habiter aussi près d'une usine Seveso, il faut habiter sur une aire d'accueil destinée aux gens du voyage. De toute façon, hein, bon, dans ce cas-là, hein, c'est soit l'usine Seveso, soit le périph', soit les deux. Et on ne va pas prendre de leurs nouvelles quand une usine crame à leur porte. Eh bien parce que c'est pas des portes, c'est seulement des portes de caravane. Alors quand les habitants et habitantes de ces terres d'accueil n'ont reçu aucune consigne, aucune information de ces des autorités, contrairement aux autres habitants, eh bien c'est elles et eux qui sont allés au devant des questions, qui ont appelé les pompiers pour savoir quoi faire, qui ont demandé aux gardiens de l'aire d'accueil, parce qu'ils sont gardés, ce qu'il fallait faire. Voilà, on leur a simplement dit... Alors, suivant leurs interlocuteurs, soit restez à l'intérieur de vos caravanes et confinez-vous à l'intérieur de vos caravanes, soit si vous voulez évacuer, faites-le, mais les caravanes restent ici. Ou alors on reviendra vers vous rapidement sans bien sûr revenir par la suite. Bref, alors aussi près de cette usine et sur un terrain Seveso, aucun abri de confinement n'était prévu. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, rien. Il n'y avait vraiment juste aucun moyen pour les gens qui habitaient aussi près de se protéger. Et alors, cette aire d'accueil n'est pas du tout un cas à part, pardon. Et cette mise à l'écart n'est pas du tout exceptionnelle. À Marseille, par exemple, l'usine Seveso Arkema a mis en place et financé en 2016 un plan de confinement pour protéger des habitants et habitantes dans un large périmètre. La seule aire d'accueil de la région est collée à l'usine Arkema. Elle n'est pas concernée par ce plan car elle n'est pas considérée comme une zone d'habitation et en conséquence n'a aucun local qui a été construit pour les confinements de ses habitants. Une tribune a été publiée dans Libération, signée notamment par les habitants et habitantes de l'aire d'accueil de Rouen-Petit-Quevilly, par le collectif des femmes de l'aire d'accueil d'Elem Rochin, par le collectif des compagnies de l'aire d'accueil de Saint-Menet, par Rémi Viennot, président d'Espoir et Fraternité de Tziganes, et par plusieurs autres gens que je ne vais pas tous vous citer. Il et elle dressent ce constat. De nombreuses aires d'accueil de gens du voyage sont implantées dans des franges urbaines, éloignées des centres-villes et reléguées aux zones industrielles à risque. Notamment des usines Seveso comme à Rouen, souvent entourées d'autoroutes, de voies rapides, de voies ferrées et d'usines en toutes sortes. Les lieux choisis pour l'aménagement des aires d'accueil ont en commun un environnement très dégradé, soumettant les populations obligées d'y vivre à des nuisances et à des pollutions quotidiennes importantes. Bruit, produits dangereux, mauvaise qualité de l'air, circulation incessante. L'esprit de la loi de l'époque, votée en... Hop, c'était une loi Besson du coup, je crois que c'était 2005 ou 2008, bref... a été voté pour rendre obligatoire aux communes la construction d'aires d'accueil était de réduire les inégalités sociales et sanitaires dont souffrent les 10 gens du voyage. Or, statistiquement, ces derniers ont une espérance de vie de 15 ans inférieure en moyenne à celle de l'ensemble de la population française. A fortiori, les reléguer dans ces zones où personne ne souhaite habiter ne va pas rehausser les espérances de vie. À Rouen, cela risque même de fortement les diminuer.
Assa Traoré, ou la sœur de Adama Traoré, qui est... Alors attention à la formulation, je ne voudrais pas me retrouver moi-même mis en examen. Assa Traoré est mort dans les heures qui ont suivi sa rencontre avec des gendarmes, sans que je me hasarde moi-même à alors, établir un lien de cause à effet entre les deux, bien sûr.
Adama Traoré, ce que tu viens de dire, Assa Traoré.
Adama qui est mort, il est mort le 19 juillet 2016, et depuis sa famille mène une sorte de combat pour essayer d'avoir toute la vérité sur la mort, sa famille, et pas seulement sa famille, puisqu'il y a un large comité qui s'appelle Vérité pour Adama. Dans la famille, il y a en particulier sa sœur qui est vraiment la grande gueule de la famille, celle qui parle beaucoup aux médias, et qui est aussi finalement une de celles qui n'a pas encore été en prison, puisque ses frères, 5 de ses frères ont été arrêtés les uns après les autres, à plein de moments, après la mort de Adama bien sûr, alors que par ailleurs c'est quand même, a priori c'était plutôt une famille de gens qui se comportaient bien. Globalement.
Sans histoire.
Alors Assa Traoré va être mis en examen et elle a été convoquée hier pour une plainte pour diffamation déposée par les gendarmes, ceux qui, ma foi, ont rencontré son frère Adama à Beaumont-sur-Oise le 19 juillet 2016. Une plainte pour, ouvrez les guillemets, diffamation publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. En cause, les posts Facebook publiés par Assa Traoré dans lesquels elle demande la mise en examen de ces gendarmes en citant leur nom des gendarmes.
Et ça, on peut dire qu'ils n'aiment pas ça.
Non, ils n'aiment pas. Elle a fait ça 2 fois à un mois d'écart, de citer leur nom et de demander leur mise en examen. C'est donc la sœur d'une victime de violence policière qui se trouve mise en examen, alors que les gendarmes qui ont tué son frère n'ont jamais été inquiétés par la justice. Je crois que ce qui leur est arrivé de pire, c'est d'avoir été entendu comme témoin assisté. Et qu'ils ont même été couverts par l'institution, bien sûr. L'acharnement judiciaire se poursuit contre la famille Traoré, puisque 5 frères d'Adama ont été au cours des 3 dernières années condamnés, 4 d'entre eux incarcérés et 2 toujours en prison aujourd'hui. C'est que ce que l'État et les institutions ne pardonnent pas à la famille Traoré, c'est de n'avoir jamais renoncé à lutter pour exiger la justice et la vérité pour Adama. Mais ce ne sont pas les Traoré mais, qu'il faut juger, mais les gendarmes. Justice et vérité pour Adama.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info. Alors, un sujet qui prête un peu plus à sourire, quoique. Et en tout cas, c'est Le Parisien aujourd'hui en France. Hein, vous savez, cette espèce de gros groupe de presse parisien qui a offert une tribune à Anne Rigail, qui n'est autre que la directrice générale d'Air France. C'est pas mal quand même.
C'est bien de faire parler les personnes de l'industrie importante en France, des entreprises importantes en France.
C'est ça. Et c'est elle, en gros, hein, qui peut faire voler jusqu'à 2300 vols par jour à sa compagnie. Et bien, elle, alors le journaliste...
C'est bien, ça crée de l'emploi.
C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Et le journaliste nous précise qu'elle s'est rendue au siège du journal en voiture électrique.
Non, parce qu'elle est écolo.
Voilà, parce que du coup, elle est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. On est rassuré, en tout cas. Comme les journalistes du Parisien d'aujourd'hui en France ne sont pas sont des journalistes engagés et qui, tu vois, ils y vont quoi. Et ben direct, ils commencent à par poser la question à la DG sur le mouvement qui a démarré en Suède dénommé Flyg Shame. Vous voyez, c'est ce truc qui dit que c'est la honte de prendre l'avion, en gros. C'est
truc qui fait qu'il y aurait, semble-t-il, des gens qui renonceraient à prendre l'avion parce qu'ils n'oseraient pas l'avouer à leurs amis, vu que l'avion, que 1 km en avion, ça pollue incroyablement plus que 1 km même en bagnole.
C'est ça. Et que du coup, par exemple, en Suède, il semblerait qu'il y ait eu une baisse du trafic, enfin, pas une baisse du trafic aérien, mais une baisse en tout cas des fréquentations de que les gens prennent moins l'avion, quoi, en gros. Voilà, et bon, alors il y a ça, il y a aussi parce qu'on commence à parler, et je pense que les compagnies aériennes ne se sentent pas réellement menacées, mais en tout cas de l'interdiction des lignes d'avion, intérieures, vous voyez, c'est le fait que ce truc de dire qu'en fait, c'est une chose de prendre l'avion pour aller à New York, bon, il faut avoir beaucoup de pognon, mais c'est un truc ok. Par contre, faire Lyon-Paris en avion, c'est débile alors qu'il y a des trains qui le font. Oui, c'est un peu ce truc-là, quoi. Donc, il y a des gens qui disent, on n'aurait qu'à interdire les lignes d'avion pour ça. Ça empêche rien aux gens. Juste, ça fait que les gens restent sur Terre plutôt que de monter dans les airs. Bref, c'est pas débile, quoi. Mais ça, les compagnies aériennes ne sont pas super, super d'accord avec ça. Parce que ça représente quand même, pour Air France, par exemple, 500 vols internes. Alors, voilà. Et en tout cas, la directrice générale a trouvé une solution. Elle va planter, pas elle-même, hein, vous imaginez bien qu'elle va pas se balader avec sa petite voiture électrique partout dans le monde, mais 70 millions d'arbres. Voilà, c'est un engagement fort qu'elle a donné dans Le Parisien aujourd'hui en France. Elle va également supprimer les touillettes en plastique dans les avions. Bon, et les autres trucs.
C'est
consigne directement.
C'est
du
très
ministère.
Très La République en marche.
Ah, c'est oui, complètement.
De faire des efforts comme ça.
Ah là, on rigole pas avec ça. Et pourquoi ils l'ont pas fait avant? De trier les déchets dans l'avion.
Voilà. Mieux vaut tard que jamais.
Et voilà. Et bon. Il y a des mesures, c'est ça. On va risque d'être sauvé. En tout cas, le plan com d'Air France est pas mal. Hein. Maintenant, on va pouvoir prendre l'avion tranquille, sans se dire que voilà, c'est au moment où on prend l'avion, c'est bio presque.
Par contre, n'hésitez pas à amener votre propre petite cuillère parce que
tu rigoles ou quoi? Tu prends ta cuillère, je pense que tu te la fais refouler en passant la douane et les contrôles à l'aéroport.
Effectivement,
non, tu ne peux rien amener. Ce qu'Air France, quand elle parle de compensation des émissions de CO2, elle parle uniquement, hein, bien sûr, des émissions de CO2 lors des trajets internes. Et elle parle seulement de ce type de pollution-là. Ce que je veux dire, c'est vrai que c'est la pollution en ce moment qui tue. Enfin, clairement, je veux dire, directement, voilà, machin. Mais il y en a quand même tout un tas d'autres. Il y en a, je pense des centaines de milliers, j'en sais rien. Mais celle-là, c'est celle dont on parle le plus. Et c'est vrai qu'elle est très importante. Mais par exemple, elle va pas compenser les émissions de CO2 pour, tout ce qui concerne la fabrication de l'avion en lui-même. Ça veut dire qu'il y a des pièces qui sont fabriquées partout dans le monde. C'est livré, ça, elle va pas le compenser. Elle va pas non plus compenser ce que représente en termes de pollution l'extraction de fioul. Oui, on a un peu du mal à quantifier, en tout cas nous dans le studio, mais on imagine que c'est pas une industrie très clean, quoi. Voilà.
Ni la pollution occasionnée par les vols Lyon-Genève, qui sont pas des vols intérieurs.
Non, bah non.
Ils sont quand même des gros vols, et en plus des vols nombreux pour des trajets qui, en réalité, se font en train encore bien plus rapidement qu'un Lyon-Paris.
C'est ça. En gros, pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les seuls efforts qu'ont fait les compagnies aériennes, c'était des efforts qui, alors certes, avaient un impact sur l'environnement, c'était pour limiter la consommation des avions en kérosène, mais leur premier souci n'était pas la planète, c'était plus plutôt leur porte-monnaie, quoi. Les compagnies, là c'est pas que Air France, mais parce que là bon c'est Air France, mais là on imagine quand même assez facilement que si Air France se met à faire ça et les autres compagnies vont facilement emboîter le pas, parce que, a priori c'est que si elles le font, c'est que c'est pas très compliqué, quoi. Les compagnies sont aussi engagées à réduire de moitié en 2050 les émissions de CO2. Alors, c'est pas mal, sauf que pour cela, il faudra du biocarburant, parce qu'en fait, ils vont pas réduire de moitié les vols intérieurs, par exemple. Je relève mon tabac, parce que je me baisse au fur et à mesure, je vais finir par terre. Ils vont trouver des moyens dits plus propres, donc déjà biocarburant, pour pouvoir faire voler leur flotte d'avions. Flotte d'avions, d'ailleurs, qui risque d'être deux fois plus importante en 2035. Donc, ça fait rêver.
C'est cool. On est sauvés.
Et donc, ce dit biocarburant n'est donc pas du jus de compost récolté dans votre jardin et ou dans votre composteur de quartier. Non, la solution actuelle, la moins coûteuse et la plus disponible, et donc celle sur laquelle va se jeter les compagnies aériennes, c'est l'huile de palme. C'est pas mal, voilà. Bon, ça fait rêver. Alors, d'après les prévisions de l'ONG Rainforest Foundation Norway, qui son job c'est de faire des pronostics là-dessus, enfin en tout cas des simulations ou quoi. Alors cela risque d'entraîner la perte de 3,2 millions d'hectares de forêt tropicale. Hein, c'est l'équivalent de la Belgique. La Belgique, hop tu dégages. Bien sûr, ce sera pas la Belgique. Bien sûr, ce sera dans des zones lointaines de notre gare et donc très certainement dans des pays plus pauvres que le nôtre. Donc on en a un peu plus rien à foutre de leurs conditions de vie. Bien sûr, ce qui va avec tout ça, c'est un dramatique effondrement de l'écosystème, parce que en fait, qui dit huile de palme dit monoculture intensive, hein, parce qu'on parle, vous voyez, de faire voler, on ne sait plus exactement la flotte d'avions, mais c'est une flotte d'avions vraiment conséquente. Bref, ça va être dramatique pour les populations locales, comme à chaque fois que ce genre de truc s'implante dans des endroits. Que ce sera des plantations pour foutre dans des réservoirs. Alors autant vous dire qu'on en a rien, on en aura encore plus rien à foutre des gens qui, enfin parce que on va pas les manger. Autant vous dire que les Européens et Européennes seront pas concernés. Donc on va pouvoir mettre toute une saloperie d'engrais et d'insecticides et je sais pas trop quoi, sans trop se soucier de la santé des employés qui les manipuleront. Bref, quand vous prendrez l'avion, si vous prenez l'avion, si vous savez que votre compagnie roule avec une compensation d'émissions de CO2 en ayant planté 70 millions d'arbres et qu'elle roule en biocarburant, sachez que cela n'est quand même pas sans conséquences pour le reste de la planète.
Alors, notre rubrique, c'est tendance, la manif pour tous en éternel loser.
Wouhou.
Contrairement à il y a 6 ans, la mode enfantine automne-hiver 2019 ne sera pas en rose naté et bleu ray sur le côté. Elle sera sûrement plus en pantalon confort pour les filles et joli t-shirt rose échancré pour les garçons. Et c'est le flop de la manif des opposants à l'extension de la PMA. donc la procréation médicalement assistée. Manif qui avait lieu en septembre, et c'est ça qui nous pousse à prévoir cette tendance pour la mode. L'association Cosette et Gavroche, créée en 2012 à Lyon contre le mariage des couples de même sexe.
Ah, c'est-à-dire que Lyon est toujours un peu première ligne sur...
Lyon est, bien sûr, Lyon est leader. Et cette association devait être le fer de lance d'un nouveau mouvement contre la loi bioéthique qui est en discussion en ce moment. Et à défaut de milliers de personnes attendues, c'est moins de 400 personnes qui se sont retrouvées pour la grosse manifestation place Bellecour.
Putain, ça fait presque, parce qu'ils ont pas mal collé quand même, ça fait presque, je pense, à peu près une personne pour 100 affiches, quoi.
C'est à peu près ça.
Ils sont grave allés, quoi.
Et voilà, ces familles hétérosexuelles qui s'opposent au projet de loi sur la bioéthique proposé par le gouvernement cet été, et pour lequel les débats sont encore en cours à l'Assemblée nationale. En fait, le principe de la PMA pour toutes les femmes est adopté, mais là, ils sont encore en train de discuter de comment, pourquoi, à quelles conditions. Cette révision doit permettre, permet l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas seulement aux couples hétérosexuels. Ça veut dire que c'est pas seulement aux femmes qui sont mariées avec un homme, mais aussi aux femmes qui soit n'ont pas de partenaire, soit sont mariées ou pas mariées, mais en tout cas sont en couple avec une femme. Et donc ça devrait ouvrir de nouveaux droits pour les enfants nés de dons, ou encore faciliter la solidarité entre personnes, dons d'organes et de cellules souches. Bon, vous me direz, les familles hétérosexuelles ont encore dimanche prochain pour se rattraper, puisque la Manif pour tous appelle à une manifestation nationale contre la PMA sans père et la GPA ce 6 octobre. Puisque ces familles considèrent que la nouvelle loi sur la PMA est un pas supplémentaire qui permet l'éventuelle autorisation de la GPA, la gestation pour autrui, l'idée des mères porteuses en gros. Et voilà, la menace queer sous les traits de Emmanuel Macron ne fait que commencer.
Canu Info.
Et puisqu'on en est au dépravé, bientôt la possibilité de niquer sans faire de bébé pourrait être étendue aux jeunes filles de moins de 15 ans. Le gouvernement, toujours Macron, alors décidément en ce moment, notre gouvernement fait des trucs cool. Le gouvernement devrait étendre la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception, devrait étendre cette prise en charge aux jeunes filles de moins de 15 ans, selon l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. C'est pas pour tout de suite non plus. Alors jusqu'à maintenant, quand t'as entre 15 et 17 piges, tu peux te faire rembourser des contraceptifs et tu peux te les faire rembourser intégralement. Mais par contre, si t'as moins de 15 ans, t'as intérêt soit à avoir du pognon personnel, soit à être super briefé sur le retrait, le calendrier, blablabla, toutes ces méthodes qui marchent déjà pas trop si on est bien briefé, mais alors si en plus on l'est pas, laisse béton. Or justement, généralement, quand t'es en dessous de 15 ans, c'est pas le moment où t'es le plus friqué, et c'est pas non plus le moment où ton degré d'information sur la manière d'éviter ce qu'on peut considérer comme la pire des IST, je veux dire la maternité, où ton degré d'information là-dessus est complètement au top. Du coup, les gamines en dessous de 14 ans ont un recours relativement fréquent à la contraception. Alors pas toutes, hein, mais en tout cas, c'est pas si dingue que ça d'avoir des premières relations sexuelles en dessous de 14 ans. Et du coup, c'est quand même pas rare que ça soit contraception d'urgence, c'est-à-dire pilule du lendemain, ou avortement. Celles par contre qui ont entre 15 et 17 ans, figurez-vous que là-dessus ça s'est plutôt amélioré, le degré d'information, de prévention et de maîtrise en gros de la contraception ces dernières années, puisque en 2012 il y en avait 9,5 pour 1000 qui ont avorté, et il y en a eu seulement 6 pour 1000 en 2018. Donc a priori, grossesse non désirée à ces âges-là, la plupart arrivent à avorter. Et ça veut vraisemblablement dire qu'il y a eu beaucoup moins de grossesses non désirées. Et ben voilà, figurez-vous que c'est ça, c'est encore une... Enfin, que là, on a l'impression que même ce gouvernement, une fois de temps en temps, sans doute par accident, peut faire un bon truc.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et alors, est-ce que peut-être que vous aussi, vous avez été saoulé, largement saoulé par les hommages à Chirac. Peut-être que vous aussi, vous avez fini par le voir ramasser des pommes dans vos rêves. Vous aussi, vous avez été choqué et plus que choqué peut-être par le discours de Macron sur l'immigration, son discours en septembre, avec son espèce de volonté de dialogue qui propose un débat sur l'immigration, blablabla. Alors si vous rongez votre frein, voilà un bon article à vous mettre sous la dent. L'article s'appelle « La construction politique et idéologique de l'immigration comme problème ». C'est un article de Saïd Bouhamama. Souvent on aime bien ses analyses, c'est un militant antiraciste, un sociologue des dominations. Un gars qui vient de Lille. Et voilà, et parce que les chefs d'État successifs de ces dernières décennies se sont tous, les chefs d'État français en tout cas, mais vraiment tous, prêtés à ce rituel consistant à présenter l'immigration comme étant un problème. Et voilà, bah, Bouhamama nous explique un peu comment, pourquoi, à quoi ça leur sert.
Et j'ai une toute petite info, mais qui valait quand même le coup d'être dit, que j'ai largement pompé à Libération. Ce dimanche, à Moria, sur l'île de Lesbos, des flammes ont démarré dans un préfabriqué avant de s'étendre, faisant au moins un mort. Des émeutes ont ensuite éclaté. Ce sont d'abord des cris qui ont traversé le camp de réfugiés à Moria, sur l'île de Lesbos, ce dimanche. Les appels au secours se sont faits incessants, alors que les flammes et leur fumée commençaient à transpercer le ciel d'un bleu radieux. Ils ont duré jusqu'à ce que résonnent les sirènes de véhicules de pompiers. Un immense brouhaha a pris le dessus, mêlant des coups sur le conteneur qui sert d'abri aux migrants, aux cris stridents, aux pleurs et aux râles de désespoir. L'incendie s'est déclaré depuis une boutique, déclare une personne sur place. Il s'est ensuite vite propagé aux préfabriqués voisins, nécessitant l'intervention des pompiers. Pendant ce temps, un bruit court dans le camp. Un réfugié aurait été brûlé par les flammes, ce que confirmera la police. D'autres réfugiés affirment avoir extrait deux corps d'enfants. Je cite la personne qui témoigne, qui est un réfugié du camp. Les secours ont tardé à intervenir et les réfugiés ne leur font plus confiance. Ils ne veulent pas remettre les corps. Le camp de Moria est débordé. Prévu pour 3000 personnes, il accueille actuellement environ 13 000. Autour du hotspot, des tentes ont été érigées portant le sigle du HCR pour Haut Commissariat aux Réfugiés, pour accueillir ceux qui sont en attente. Du côté des autorités, c'est silence radio, comme s'il ne fallait pas dire ce qu'il se passe réellement derrière les barbelés du hotspot.
Il faut dire qu'en Grèce, on avait jusqu'à récemment un gouvernement qui était censé être un gouvernement d'extrême gauche, mais enfin à la Mélenchon, c'est-à-dire... une extrême gauche pas forcément très très cool pour les migrants, et en réalité pas cool du tout. Mais alors là, depuis les dernières élections, c'est un président de droite et c'est carrément pire.
Et il y a aussi l'exemple du quartier de
Exarchia
qui se prend une répression sans précédent, où les flics viennent tabasser. C'est un quartier où il y a des squats, des solidarités, avec des migrants, des réfugiés, enfin voilà, où tout un truc, toute une ambiance assez chouette s'y passe, ou s'y passait, suivant l'état actuel, et où les flics débarquent le soir, latent la gueule de tout le monde. Enfin, c'est vraiment une sale ambiance. Voilà, et là, ça nous fait que confirmer. Là, la personne témoignait aussi également que plusieurs fois, là, au moment, du coup, la tension montait dans le camp, et que du coup, les migrants et migrantes à l'intérieur du camp ont commencé à s'énerver au vu de la situation sur les personnes qui gèrent ce camp-là. Et voilà, du coup, les flics sont arrivés, on fait ce qu'ils font à chaque fois, parce qu'il y a personne à chaque fois qu'il y a des embrouilles comme ça, machin, ils balancent du gaz lacrymogène sur tout le camp, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gamins, par exemple, les personnes qui ont du mal à respirer sous les gaz lacrymogènes. Voilà, c'est un peu ça l'ambiance de ces hotspots. Et quand même, ces hotspots, c'est pas... ok, là, ils sont en Grèce, c'est pas en France, mais c'est la politique migratoire de l'Europe qui les met en place, et c'est sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés. Voilà, des trucs pas chouettes qui se passent aux portes de l'Europe.
Qui se passent en Europe. À l'intérieur, aux portes, mais du côté intérieur.
Oui, aux portes, mais du côté intérieur, c'est ça. Eh bien voilà, on a fini, il est 19h46, le temps de laisser largement la place à Idée Noire qu'on voit derrière le bocal, le temps de s'installer. Et bien en tout cas, merci de nous avoir écoutés, on vous retrouve la semaine prochaine.
Ouais.
Et en attendant, 15 minutes de bande continue. Toutes fraîches, a priori, si vous tombez sur les morceaux tout frais qui ont été mis mercredi dernier. Allez, ciao!
Ciao!
Radio Canu.
C'était Canu Info, c'était Canu Info, c'était Canu Info de mercredi. C'était Canu Info, c'était Canu Info, c'était Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.